Europe 1.
Europe 1, 10h-11h, Mediapolis. Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, c'est samedi, vive la vie, c'est Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politiques, réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Paul Lassène. Nos deux invités aujourd'hui, Rokhaya Diallo, écrivaine, journaliste, documentariste, droit de l'hommiste, féministe, qui publie un livre qui résume bien et sa première partie de vie et son caractère, puisqu'il s'intitule « Ne reste pas à ta place » aux éditions Marabout. Et Yves Meny, éminent professeur émérite, ancien président de l'Institut universitaire européen de Florence, un des premiers politologues en France, même le premier à avoir écrit il y a maintenant un certain temps sur la corruption, et qui vient de publier « Imparfaite démocratie » aux presses de Sciences Po, sous-titré « Frustration populaire et vague populiste ». Donc, vraiment deux éclairages qui vont se compléter ou se confronter, dont nous avons bien besoin par les temps qui courent. On commence comme d'habitude, en rigolant un peu avec Canteloup.
Monsieur Castaner, comment se fait-il que les Champs-Élysées aient été mises à sac de cette façon? C'est quand même pas normal.
Écoutez, j'entends. Mais en fait, pour tout vous dire, les choses se sont mal goupillées. Je pensais qu'Emmanuel Macron, que le président de la République, pardonnez-moi, gérerait la situation. Mais il était au ski. Lui pensait que je gérerais, mais j'étais en boîte du duc. Heureusement, il s'y restait le Premier ministre, qui n'a pas les mêmes passions que nous. Oui, lui est passionné par Le Havre et Alain Juppé. C'est vous dire le sérieux du bonhomme.
Oh non, écoutez,
donc il a pu, lui, nous alerter sur ce qui se passait réellement dans la capitale.
En tout cas, avant le prochain samedi, les Français attendent forcément des mesures fortes.
Absolument. Et je suis en mesure d'annoncer à votre micro trois mesures qui ont d'ores et déjà été décidées.
Ah bon, allons-y.
Le chef de l'État a, par exemple, annulé son déplacement au bowling. Laurent Nunez, mon secrétaire d'État, a décidé, lui, d'annuler sa thalassothérapie. Et moi-même, je reporte la soirée mousse et le concours Miss T-shirt mouillé que j'avais prévu et dont je souhaitais inviter M. Aliagas, que je devais organiser au ministère. Vous voyez que chacun a pris ses responsabilités.
Et puis, il y a aussi l'image de Paris qui souffre à l'international. Hein. Est-ce que vous avez un mot pour les Parisiens, M. Castaner?
Écoutez, j'aimerais citer ce grand auteur américain qui disait...
Ah oui, Ernest Hemingway, son livre « Paris est une fête
hein, ». Non, Corona, qui disait « This is the rhythm of the night
». Oh yeah. Je crois qu'on va arrêter là.
On l'a perdu.
Oh yeah.
C'était lundi matin sur Europe 1, Nicolas Canteloup. Alors derrière ces plaisanteries, une question sérieuse a agité le landerneau politique pendant cette semaine, à savoir... Deux questions, à savoir la première, les conditions d'exercice du maintien de l'ordre samedi dernier sur Paris avec tous les dégâts qu'on a pu constater, et derrière la démission du préfet de police, et la seconde, le fait qu'on allait demander aux soldats de Sentinelle d'alléger la tâche des forces de l'ordre en effectuant des gardes statiques à leur place. Commençons par ce dernier sujet. Yves Meny, vous trouvez que c'est typique français de s'énerver pour trois fois rien ou que c'était un grand et vrai débat?
C'est un débat qui est un vrai débat s'il s'agissait notamment d'utiliser les forces de l'ordre contre les manifestants. Alors là, ça serait un
les forces armées, vous voulez dire.
Les forces armées, oui.
Vous avez dit les forces
armées. Oui, les forces armées.
Parce que les forces de l'ordre, on peut quand même les utiliser.
Oui, tout à fait.
Oui.
Mais en revanche, en tout cas, ce qui est prévu, c'est que l'armée n'intervienne pas, mais fasse de la garde statique, ce qu'elle faisait dans le cadre de l'opération Sentinelle. Donc, si on en reste là, je crois que ce n'est pas dramatique. Il semble qu'il faut se remettre dans la culture française, qui est une culture de protestations et de manifestations souvent violentes. Un sociologue américain qui avait été éduqué en France caractérisait la France comme une communauté délinquante, c'est-à-dire que les individus s'agrègent contre et pas forcément pour quelque chose. C'était la grande différence qu'il faisait avec les États-Unis.
Mais vous ne visiez pas Rokhaya Diallo, là, en disant ça.
Non, pas du tout.
Vous, Rokhaya Diallo, vous trouvez que le grand appel de Mélenchon à la désobéissance, les interventions jusqu'au président de la République a dû venir expliquer les conditions dans lesquelles on utilisait les forces armées, c'est beaucoup de mousse et de buzz pour pas grand-chose, ou c'était...
Disons,
un vrai débat.
Je pense qu'il y a des raisons d'être interpellé, en tout cas par ce déploiement de force, même si j'estime, comme tout le monde, qu'il y a eu des excès la semaine dernière, notamment avec l'incendie qui a vraiment mis en péril la vie de personnes qui n'étaient pas partie prenante de la manifestation. Mais c'est vrai que je trouve qu'il est difficile en fait, d'avoir ce débat sur les dégradations de biens matériels sans penser à tous les dégâts humains en fait, qui ont eu lieu ces dernières semaines. On a assisté depuis longtemps, depuis plusieurs semaines en tout cas, à des violences policières quand même assez conséquentes, très très massives. Et j'invite vraiment chacun à se référer au travail très très bien documenté du journaliste David Dufresne qui... de manière récurrente, interpelle la place Beauvau quand un policier expose un manifestant, dans le cadre une manifestante des manifestations des Gilets jaunes, à des violences policières. Plusieurs manifestants ont perdu des yeux, des mains. Et je pense que ça, je regrette en fait que le gouvernement ne tienne pas compte de cet aspect des choses et s'attache uniquement aux violences qui sont commises par des personnes qui, pour certaines, ne sont pas des manifestants.
Quand il en tient compte, comme samedi dernier, du coup, la violence décuple et on lui reproche de ne pas.
La violence contre les biens décuple, mais la violence.
On reproche aux policiers d'être trop brutaux quand ils font leur métier de. Comme le samedi d'avant, et d'être. Insuffisamment ferme quand ils ne le font pas pour ne pas avoir de blessés.
Chacun reconnaît, y compris les personnes qui représentent la préfecture, que cette option qui a été celle des policiers la semaine dernière, à savoir voilà une stratégie de résilience et de retrait, a eu pour conséquence le fait qu'il y ait moins de blessés. Je pense que c'est quand même important, c'est plus important qu'il y ait moins de blessés, qu'il y ait davantage de dégâts matériels. Évidemment, c'est regrettable les dégâts matériels, mais entre la perte d'une partie de son corps, d'un œil, et la dégradation d'un bien qui est un bien physique, enfin, je pense qu'il n'y a pas de comparaison possible.
Un gosse a failli flamber quand même.
C'est ce que je disais au départ. Donc cet incident-là est un incident...
Oui.
Non mais c'est un incident absolument grave. Ça aurait pu avoir des conséquences très très graves. Mais j'ai quand même le sentiment qu'on a beaucoup, beaucoup parlé du Fouquet, et qu'on a beaucoup moins parler de ces manifestants qui devraient aussi avoir le droit d'avoir des conditions de manifestation qui protègent leur droit à s'exprimer. Il faut rappeler quand même que des institutions comme Amnesty International ont tiré la sonnette d'alarme en indiquant que la France mettait à mal, dans un certain sens, dans une certaine mesure, le droit de manifester librement. Donc j'aimerais que le gouvernement, en tout cas, soit capable aujourd'hui de prendre autant, de se mobiliser de la même manière pour que les biens des différents commerçants soient préservés et pour que l'intégrité physique des personnes qui veulent manifester paisiblement soit aussi préservée et protégée.
Manifester paisiblement, personne ne conteste ce droit. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a, à ma connaissance, et depuis des années... jamais eu de ces fameuses violences policières lorsqu'il y avait des manifestations paisibles. Et j'attire aussi votre attention sur le fait qu'on utilise un vocabulaire qui a été en quelque sorte imposé par certains, violence policière. Violence policière signifie que l'on est actif dans la mise en œuvre de ces violences. La police réagit, peut-être avec excès, et je suis d'accord avec vous qu'il y a certainement des enquêtes à faire sur ces excès, mais je ne connais pas de manifestation pacifique qui a été attaquée par les forces de l'ordre. Donnez-moi des exemples. Donnez-moi des exemples.
Non, on va pas
faire refaire l'histoire là-dessus. Mais je parle à dessein de violence policière parce que je pense qu'il y a une histoire et que le fait que des brigades anti-criminalité, les BAC qui ont été constituées pour contenir les violences urbaines dans les quartiers populaires, participent au maintien de l'ordre dans le cas des Gilets jaunes, je pense que ça a aussi exporté des pratiques policières qui visaient essentiellement les habitants de quartiers populaires et qui étaient moins visibles du grand public.
Et pendant ce temps-là, sur les chaînes info, le feuilleton de la série, ou plus exactement la série Gilets jaunes, continue. Vous avez les quatre principales chaînes info qui sont toutes les quatre sur le sujet, alors que CNN est sur la fin territoriale de l'État islamique, alors que nous avons le deuxième week-end de grandes conférences régionales citoyennes. Non, il n'y a que le feuilleton des Gilets jaunes qui compte. Enfin, pour certains, pas pour nous, parce que justement, la deuxième série... préférée des Français avec Gilets jaunes, c'est la série Grand Débat. Alors sur la série Grand Débat, où en sommes-nous? Où allons-nous? Dans quelques instants.
10h-11h, Olivier Duhamel sur Europe 1.
Mediapolis continue jusqu'à 11h avec vous, Olivier Duhamel, mais avec aussi ce samedi Rokhaya Diallo, journaliste et auteur de Ne reste pas à ta place aux éditions Marabout, et Yves Meny, politologue et auteur d'Imparfaite démocratie aux presses de Sciences Po.
Et il n'y a pas que Mediapolis qui continue, il y a aussi le grand débat avec la phase régionale. C'est intéressant la phase régionale, dans les 15 régions je crois, il y a une conférence régionale, citoyenne, ils appellent ça comme ça. À l'origine, ça devait être un ensemble de citoyens tirés au sort et des élus, des représentants d'associations. Et finalement, ce ne sont que des citoyens tirés au sort qui, dans telle région, sont 80, 100, 120, répartis par 6, 7, 8 par table et travaillent avec quelqu'un qui enregistre les choses sur tel ou tel thème. Alors, on n'en entend quasiment pas parler. Moi, ça m'intrigue sur... Dans le fond, qu'est-ce qui est médiatisable et qu'est-ce qui n'est pas médiatisable dans la politique aujourd'hui ? Parce que, évidemment, si le président de la République fait un débat avec des agriculteurs ou avec des jeunes, et que, alors en plus, idéalement, il se balade un petit peu avant dans la ville ou un petit peu après, près du lac, alors là, vous avez toutes les télés qui sont dessus et qui ne le lâchent pas, parfois pendant 10 minutes, un quart d'heure, sur des propos insignifiants. Mais si vous avez quelque chose... où il n'y a pas de stars, évidemment, parce qu'il n'y a pas de stars, c'est des citoyens tirés au sort, où il n'y a pas forcément de l'engueulade, parce que c'est pas le principe, c'est qu'ils ne viennent pas pour s'engueuler, c'est pour essayer de s'accorder sur une proposition. Médiatiquement, ça n'existe plus. C'est difficile, la politique, aujourd'hui. C'est presque... La sophistication médiatique a plutôt tendance à crétiniser la politique qu'à la rendre plus intelligente, je trouve, Yves Meny.
Ben, je crois que faire de la politique, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Parce qu'il y a une individualisation, ce que j'appelle une ubérisation de la politique. Chacun croit avoir la vérité, tient à sa vérité. Et en France, c'est peut-être même plus difficile qu'ailleurs. Parce qu'en France, nous n'avons pas une culture de la participation. Il y a 30 ou 40 ans, j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai participé, aux discussions dans l'école de ma fille, et j'ai vu ce qu'était la participation, c'est-à-dire un dialogue respectueux entre les gens qui n'essayent pas de se couper la parole, etc. Les Français ont une culture de la participation qui est médiocre. Et d'ailleurs, même si ce grand débat est un succès extraordinaire par rapport aux attentes, il y a 1 million ou 1,5 million de contributions, mais vous voyez bien que ça reste tout de même un phénomène, entre guillemets, assez élitiste, c'est-à-dire que ça ne représente que 1,5 million ou 2 millions, ou s'il y a des groupes, 3 millions de personnes sur une population de 60 millions. Et c'est là, d'ailleurs, je crois, la grande illusion des Gilets jaunes, c'est-à-dire que la représentation et la médiation sont indispensables. La grande difficulté en France, c'est que toutes les institutions de médiation, que ce soit les syndicats, les partis politiques, les églises, les associations, sont en train de s'effondrer.
Avec votre coup de la culture américaine, où là, on ne se coupe pas la parole, je vous ai laissé parler, mais je me suis dit, si je continue, il va parler jusqu'à la fin de l'émission. Rokhaya Diallo, vous pensez quoi, vous, de l'évolution du grand débat ?
J'ai le sentiment quand même qu'il y avait un réel besoin de la part des personnes qui manifestaient de sentir que leur voix avait un impact et qu'elle pouvait avoir une forme de visibilité. Parce que la sphère publique est quand même caractérisée en France par une forme d'entre-soi et elle est perçue comme étant portée par des personnalités qui sont relativement déconnectées d'un certain nombre de problématiques auxquelles sont confrontés un grand nombre de Français. Bien entendu, il n'est pas question, et je pense qu'il n'a jamais été question, de donner la parole à 67 millions de citoyens. Puisque
déjà, on pourrait se restreindre aux 40 millions
oui, d'adultes. Oui, c'est ça, d'électeurs, oui, c'est ça.
De toute façon, personne
voilà.
Ne va les aller.
Bon, après, les enfants, ce n'est pas forcément intéressant d'entendre les gens qui sont des adolescents et qui n'ont pas encore le droit de vote, mais ce n'est pas forcément la question. Mais je pense que les instances représentatives qui ont été citées précédemment, elles ont aussi le défaut de ne pas refléter la variété que constitue la population française, et notamment les instances séance élective. Et c'est vrai que quand on parle justement des États-Unis et qu'on voit le renouvellement du Congrès avec davantage de femmes, davantage de femmes jeunes, y compris qui viennent du terrain, quand on voit que la figure de proue de l'opposition à Donald Trump, c'est une femme qui l'année dernière était encore serveuse à New York, qui vient du, effectivement d'un quartier populaire. Disons que voilà, c'est ça.
Ici.
C'est-à-dire que dans les figures politiques, on a aussi envie peut-être de voir des personnes qui incarnent davantage une forme d'engagement, mais un engagement qui est issu vraiment des classes populaires. Et puis, ça, aujourd'hui, ça manque.
Et puis peut-être, parce que je pense qu'Yves Meignard a raison de nous rappeler que 2 millions de personnes, sous une façon ou une autre, peut-être même 3, bon, il y a 1 million 200 000 qui ont... 1 800 000 contributions sur Internet, mais pas de 1 800 000 personnes, un peu moins, parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu 10 200 débats à la base. Il y a eu plusieurs milliers de cahiers de doléances, etc. etc. Bref.
C'est formidable.
Je pense que d'un côté, il faut rappeler que ça ne représente pas les Français, ni le peuple, de même qu'encore moins les 300 000 devenus 30 000 gilets jaunes. Mais que d'un autre côté, le point commun entre les gilets jaunes et le grand débat, quelque part, ce sont des gens qui ont eu bonheur à se parler alors qu'on ne se parle plus.
Tout à fait.
Et qui ont eu bonheur à, chacun à sa manière, parler au pouvoir alors qu'on ne donnait pas la parole vers le pouvoir. Et que donc, c'est pas, donc évidemment, ce n'est pas le peuple, mais évidemment, ce n'est pas non plus
le
sérail, le microcosme. Ce sont des citoyens actifs, et que de temps en temps, que des citoyens actifs puissent s'activer, on peut considérer que c'est une bonne chose. Non ?
Mais j'ai une proposition concrète à faire en ce sens pour essayer de répondre à un certain nombre de revendications et améliorer nos vieilles institutions.
C'est quoi la proposition ?
Eh bien, le Sénat est élu par des grands électeurs, par des élus d'abord, et des grands électeurs qui sont choisis par ces mêmes élus.
Oui.
Et on sait tous que ce sont les clientèles, les parentèles, les amis des amis qui sont choisis par les élus comme grands électeurs. Eh bien, que l'on fasse élire le Sénat en choisissant ses électeurs au tirage au sort. Et ce sera certainement beaucoup plus sain que le système actuel.
Okay,
effectivement, c'est une bonne idée parce que c'est vrai que la manière dont les sénateurs sont élus, les sénateurs et sénatrices sont élus aujourd'hui, effectivement, favorise une forme de clientélisme très prégnant localement.
Si et on puis... y va chacun de son dîner, moi, mon idée, c'est la LIC.
C'est...
Pas le RIC, la LIC.
Et c'est
la loi d'initiative citoyenne.
D'accord.
Qu'il n'y ait pas que le Premier ministre ou les parlementaires qui puissent avoir l'initiative d'une loi, mais X millions de citoyens avec obligation d'étudier la loi. Par le Parlement, comme quand c'est le gouvernement qui présente un projet.
C'est une idée. En tout cas, ce qui est manifeste et ce que montrent les manifestations de ces dernières semaines, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui étaient isolées et qui avaient envie d'échanger, tout simplement. Ce qu'on a vu aussi autour des ronds-points, je trouve que c'est quelque chose d'assez réjouissant. Et les contributions nombreuses qui ont été apportées au débat, notamment en ligne, montrent qu'il y a une réelle envie, non seulement d'échanger avec ses pairs, mais aussi d'avoir une parole qui est prise en considération, qui est valorisée. Donc je crois aussi qu'on peut tirer quelque chose de positif parce
et
qu'on
les intellos, il y a eu le coup des intellos pendant. Non, vous ne le dites pas tout de suite, vous le dites dans quelques instants.
Olivier Duhamel sur Europe 1.
Le politologue Yves Meigny et la journaliste et écrivaine Rokhaya Diallo sont vos invités ce matin, Olivier Duhamel, dans Mediapolis.
Oui, absolument. Et donc, on se posait la question de quoi ? Du débat avec les intellectuels à l'Élysée, où là, le président de la République a battu son record. Il a commencé à 18h, il a fini à 2h30 du matin. Écoutez Perrine Simon-Naoum, historienne qui y était et qui en a parlé sur France Culture mardi.
Ce qui allait au-delà d'une rencontre ou entre un petit aéropage d'intellectuels et le président de la République, c'était en fait ce message qu'il a voulu faire passer. Il a voulu montrer qu'il n'y avait pas de progrès qui ne soit complexe. Et en fait, encore une fois, je crois qu'il a essayé de marquer chaque fois quelles étaient les limites du politique. Et c'était là qu'il m'a paru intéressant d'avoir toute une diversité de sujets pour montrer qu'en réalité se dégageait une problématique commune dans laquelle sont engagés et les intellectuels et les politiques, qui concerne à la fois les rapports entre l'individu et le collectif, les problèmes de représentation, les problèmes d'inégalité et surtout l'importance de savoir ce qu'on mettait derrière les mots.
Yves Meigny, vous connaissez d'autres pays où le chef du gouvernement le réel chef du pouvoir passerait des heures à discuter avec des intellectuels en son palais ?
Non, je n'ai pas d'exemple à vous donner, mais en revanche, la France est caractérisée par une certaine distance entre le monde politique et le monde intellectuel, qui généralement s'ignore, et qui sont assez fréquemment dans des rapports, je dirais, d'hostilité, ne serait-ce que parce que les intellectuels tendent à défendre des positions qui sont assez tranchées et que le politique, c'est toujours l'art du compromis. Mais vous avez d'autres pays, comme par exemple l'Italie, où je vis une grande partie de mon temps. En Italie, les intellectuels sont vraiment partis, je dirais, de la classe dirigeante. Et d'ailleurs, les mouvements populistes qui sont venus au pouvoir aujourd'hui ont balayé tout ça. Il y a une rupture aujourd'hui en Italie entre le pouvoir politique et les intellectuels.
Mais qui est tout à fait nouvelle.
Qui est tout à fait nouvelle parce que depuis la chute du fascisme et la Seconde Guerre mondiale, au fond, les intellectuels et, je dirais, les universitaires, parce que ici, je voudrais reprendre peut-être un mot de Stanley Hoffman qui disait à propos des États-Unis, je suis désolé, aux États-Unis, on n'a pas d'intellectuels, nous avons seulement des universitaires. Ce qui était une façon de se moquer des Français et de la France qu'il connaissait bien, puisqu'il y avait, oui, été étudiant à Sciences Po. Absolument. Mais disons que cette osmose entre les intellectuels et la politique en Italie, effectivement, vient de se rompre. Il y a un collègue qui vient d'écrire un livre en Italie qui s'appelle La Svolta, c'est-à-dire le grand changement.
Le retournement.
Le retournement et qui montre ce phénomène. Oui.
Orkaïa Diallo, vous avez regretté de ne pas avoir été convié à l'Élysée ?
Non, ce n'est pas du tout quelque chose que j'attendais. Toutefois, si je dois faire une remarque, il y avait quand même 71% d'hommes.
Oui.
Et je regrette effectivement qu'on n'ait pas réussi dans cette réunion intellectuelle à observer une constitution paritaire, parce que les universitaires femmes, il y en a quand même un certain nombre en France. Et après, d'autres questions sont posées. Je sais qu'il y avait par exemple énormément d'économistes et qu'il n'y avait pas du tout de géographes. Et du coup, la question des territoires s'est posée uniquement sous l'angle des économistes, alors que cette question-là, la question de la manière dont les territoires français sont répartis, l'urbanisation, certains quartiers, des quartiers populaires, qu'ils soient ruraux ou urbains, c'est une question qui est importante et qui, je pense, est au cœur d'un certain nombre de revendications des Gilets jaunes. Donc ça, j'ai trouvé cela dommage. Après, c'est toujours une bonne chose d'avoir un président qui s'intéresse aux idées et qui est capable d'échanger avec des intellectuels, même si dans certaines interventions, j'avais le sentiment que certaines peut-être essayaient de placer... de plaquer en tout cas des discours qui n'avaient pas forcément de lien direct avec des questions ou des interpellations qui auraient pu être, en tout cas avoir des réponses un peu tangibles et concrètes. Mais je pense qu'il ne faut pas écarter les intellectuels de la sphère publique. Et d'ailleurs, parmi les intellectuels, il y avait une grande majorité d'universitaires, mais il y en avait quelques-uns qui n'avaient pas de titre de doctorat, donc étaient des intellectuels parce qu'ils participent à la vie des idées en France. Et ça, je trouve aussi que c'est une bonne chose de voir que des gens puissent être considérés.
Hors de France, il y a deux grands pas intellectuels qui sont rencontrés. Je vous dirai lesquels dans quelques instants.
De 10h à 11h, vous êtes avec Olivier Duhamel pour Mediapolis. Et ce matin, Olivier, vous recevez l'écrivaine et journaliste Rokhaya Diallo, auteur de Ne reste pas à ta place aux éditions Marabout, et Yves Ménie, le politologue et auteur d'Imparfaite démocratie aux presses de Sciences Po.
Et Alice Baudry, directrice de la stratégie du développement à l'Institut Montaigne qui surveille pour nous les médias internationaux, a repéré un article de USA Today, le 19 mars, intitulé « Trump des tropiques » avec la visite du président brésilien Jair Bolsonaro aux États-Unis. Le président brésilien, donc c'est lui en fait qui est surnommé le Trump des tropiques, n'est-ce pas, s'est rendu à Washington et il y a 5 choses à savoir sur lui, dit-on dans USA Today. 1. C'est un fan de Trump. Âgé de 63 ans, il était perçu au Brésil comme un outsider qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense et il a repris l'idée « Make America Great Again » avec son slogan nationaliste « Le Brésil avant tout ». Et Dieu avant tout. Deuxièmement, il est controversé. Il avait été inculpé de discours de haine par le procureur général du Brésil. Troisièmement, pourquoi visite-t-il les États-Unis ? Eh bien, c'est aussi pour faire plaisir à ses électeurs qui sont nationalistes et ultra-conservateurs en montrant qu'il s'aligne sur le conservatisme religieux des États-Unis. 4. Il essaye d'obtenir de Trump un statut d'allié privilégié hors OTAN, et 5, côté Trump, et ben on espère que le Brésil pourra les aider dans la question du Venezuela. Et voilà, on a deux chefs d'État que vous qualifieriez de populistes, Yves Menin.
Oui, mais ce sont deux formes de populisme assez différentes. D'abord parce que aux États-Unis, le populisme existe depuis la fin du 19e siècle et il est toujours présent dans la politique américaine, mais c'est la première fois qu'en fait on élit un président populiste. Tandis que le président du Brésil, lui, il vient après un héritage de dictature. Un dictature de système politique quasi fasciste. Et par conséquent, le populisme brésilien est beaucoup plus dangereux que le populisme américain parce qu'aux États-Unis, il y a suffisamment de poids et de contrepoids. On le voit bien d'ailleurs, le mur de ce cher monsieur Trump, bah, il est un peu dans la panade parce qu'il y a suffisamment de contrepoids dans le système américain pour empêcher ses excès. Je crains qu'au Brésil, ça ne soit pas du tout le cas et qu'il puisse y avoir une dérive quasi fascisante.
Rokhaya Diallo.
Oui, je pense que l'un et l'autre incarnent la crainte d'une partie de la population de voir aussi des avancées de droits pour des populations qui sont plus fragiles sur le plan économique notamment. C'est vrai qu'aux États-Unis, je pense que symboliquement, l'élection de Donald Trump, c'était aussi une réaction par rapport à 8 ans sous l'égide d'un président noir qui était Barack Obama, qui incarnait d'une certaine manière une forme de progressisme. Démographiquement, il y a une vraie angoisse qui est présente aux États-Unis parce qu'on sait qu'entre 2043 et 2050, les Blancs seront minoritaires et que la population qui grandit le plus rapidement, c'est la population latina. Et du coup, Trump, d'une certaine manière, incarne physiquement une réponse à cette angoisse de disparition. Et au Brésil, il y a eu beaucoup d'avancées sociales, notamment avec des politiques d'action positive pour les pauvres, pour les minorités. Le Brésil, c'est un pays alors qui est ethniquement, majoritairement en réalité, composé de personnes noires, mais qui sont structurellement discriminées de manière très très importante. Et ça, je pense, quand on regardait les manifestations qui étaient opposées à Dilma Rousseff, on voyait bien qu'il y avait le sentiment qu'on en avait trop fait pour des populations et que ces avancées sociales étaient perçues comme ayant appauvri des classes moyennes, des classes supérieures, alors qu'en réalité le pays traversait une crise économique. Donc il y a vraiment un mouvement de préservation, une angoisse du futur qui d'une certaine manière a porté ces deux hommes au pouvoir.
Alors Yves Menin évoquait le fait que le Brésil avait longtemps connu la dictature, mais entre la dictature et l'élection de Bolsonaro, il y a quand même eu des années, décennies même démocratiques, et notamment avec la présidence de Lula, qui était le premier ou peut-être le deuxième ouvrier, si on compte Lech Walesa, dans toute l'histoire des démocraties, à être parvenu à la tête du pays. Alors, il y a des gens qui disent que la notion de populisme, c'est un truc fourre-tout qui ne sert à rien. Et qui notamment commet l'erreur de mettre dans le même sac des populismes entre guillemets de gauche et des populismes d'extrême droite, alors que ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que vous pensez sur ce sujet, Yves Menin ? Vous nous le dites dans quelques secondes.
Comme chaque samedi, vous écoutez Mediapolis avec Olivier Duhamel et ses deux invités du jour, Rokhaya Diallo, écrivaine et journaliste, et Yves Menin, politologue.
Et Yves Menin, des petites questions, vous me répondez rapidement si vous voulez bien. Rokhaya, vous nous laissez jouer à ce truc-là, sauf que c'est pas un jeu, sauf quand vous n'êtes pas d'accord ou vous intervenez. Lula, c'était un populiste ou pas ?
Il y avait des formes de populisme, oui. Mais tout le monde est populiste, parce que tout le monde...
Tout le monde est populiste.
Oui, tout le monde est populiste, plus ou moins. Parce que tout le monde a besoin d'être élu.
Par exemple, en Italie, les dirigeants comme Romano Prodi, Enrico Letta, Mario Monti étaient des populistes ?
Non, sans doute pas. Mais ils ont tout de même besoin d'être élus et de bénéficier du soutien du peuple. Mais c'est toute l'ambiguïté...
Populiste, ça se définit pas comme ayant le soutien du peuple.
Excusez-moi, toute l'ambiguïté est autour de la notion de peuple.
Oui. Hein.
Et c'est-à-dire que les démocraties sont basées sur le peuple, et comme j'essaye de le démontrer dans mon livre, le problème ensuite, c'est qu'est-ce que l'on fait de ce peuple ? Parce qu'on sait bien que ces 10, 15 ou 5, ou 100 millions d'électeurs ne peuvent pas matériellement être tout le temps au pouvoir.
Excusez-moi.
Donc vous êtes d'accord quand même pour dire, allez, en le disant vite, qu'il existe quelque chose qui s'appelle le populisme, qui est la négation du pluralisme, des corps intermédiaires, la mise en cause du système et de l'élite au nom du peuple, pour dire les choses très vite. Après, avec parfois une forme raciste ou pas, parfois une forme sociale ou pas,
il y a une ambiguïté sur ce qu'est la démocratie. Et la démocratie, c'est deux choses. C'est un pouvoir qui vient du peuple, et ensuite, c'est toute une série de mécanismes de représentation, de poids et de contrepoids, pour éviter les excès du peuple, parce que...
Mais bien sûr, parce que sinon, il n'y aurait pas de démocratie. On voulait vous passer un son de Cohn-Bendit dans un documentaire dans lequel il rappelle que les peuples n'ont pas toujours raison. Le peuple allemand a élu Hitler. Mais... Bon, et puis le réalisateur me dit, le son est mauvais. Les autres disent, tu vas faire encore un point Goldwyn. Alors que c'est quand même une réalité. Si vous ne définissiez pas la démocratie comme la souveraineté du peuple tempérée par l'état de droit, les libertés, les droits fondamentaux, les contre-pouvoirs, tout le monde, ou presque,
mais Olivier,
démocrate,
il n'y a pas un seul exemple, il n'y a pas un seul exemple de pouvoir populaire au sens plein du terme qui ne finisse pas dans l'anarchie ou dans la dictature. Bon. Pas un seul exemple. Si vous pouvez me donner un exemple de pouvoir entièrement populaire qui ne finisse pas de cette façon, je suis preneur.
Mélenchon, il est populiste ?
Bien sûr.
Rocaille, Mélenchon, il est populiste ?
Moi, je ne l'aurais pas spontanément qualifié de populisme, mais je peux l'entendre. C'est vrai que j'ai une difficulté avec ce terme dans la mesure où il amalgame des personnes qui défendent des idées opposées. Après, ce sont les procédés, effectivement, de dénonciation d'un système qui favoriserait une certaine élite. Mais je ne crois pas qu'il y a forcément du populisme dans cette dénonciation, ou en tout cas quelque chose de construit.
Et ce qui change, ce sont les politiques ensuite. Le premier mouvement populiste américain à la fin du 19e siècle était un mouvement progressiste. C'est grâce à ce mouvement populiste qu'a été introduit l'impôt sur le revenu aux États-Unis. C'est grâce à ce mouvement populiste que les sénateurs américains sont élus au suffrage universel. Il ne faut pas l'oublier. Donc, ce qui change, c'est la nature des politiques qui peuvent être de droite, d'extrême droite ou d'extrême gauche. Mais cette idée que le peuple a toujours raison et que le peuple, c'est en fait une petite partie qui devient le tout, ça, c'est très populiste.
Et ça, vous l'avez quand même chez Mélenchon.
Oui, ça, sans aucun doute. C'est peut-être aussi lié au fait que ce terme est souvent jeté comme un anathème à la figure des politiques qui sont perçues comme populistes et comme peut-être un refus d'aller plus profondément dans leur argumentation. C'est peut-être pour ça que je suis un petit peu réservée par rapport à l'usage de ce terme, parce qu'il est un peu, il est utilisé comme un outil de disqualification, davantage que comme quelque chose qui viserait à décrire une option politique.
Mais oublions le terme. Oublions le terme. Si Mélenchon arrivait au pouvoir, vous pensez que ce serait, vu et son style et son discours et son programme, une avancée démocratique ou un risque pour la démocratie ?
Alors déjà, ce qui est compliqué, c'est de baser toute l'idée de Mélenchon sur la seule personne de Mélenchon. Moi, je ne sais pas si Mélenchon est aussi intéressant que les idées qu'il défend et que les membres de son parti. Donc, c'est vrai que moi, j'ai, en tout cas à titre personnel, des réserves sur la personnalité de Mélenchon. Pour autant, ça ne veut pas dire que je n'estime pas que dans La France Insoumise, il y a des choses très intéressantes qui pourraient être portées au pouvoir. Donc c'est ce qui est aussi compliqué en France, c'est que la manière dont on élit les personnes comporte une telle focalisation sur l'individu que, effectivement, d'une certaine manière, ça annule toute la structure collective qui pourrait être portée.
Vous voyez pas mal, pour que les mélanchonistes et les anti-mélanchons qui
vous
écoutent.
Vous savez, un des traits des populismes, de tous les populismes, c'est la propension à l'amour du leader.
Oui, et ça, c'est... Et
à
ça,
droite
pour le coup,
à droite
voilà.
Comme à gauche. Hein,
et
à
ça,
comme...
je pense que c'est quelque chose qui est problématique et qui va aussi dans le sens, parce que voilà, ce que promeut aussi la France Insoumise, c'est l'abolition de la 5e République pour cette raison-là. Parce qu'elle met en avant un président qui a des pouvoirs très très importants en comparaison des autres démocraties occidentales. Donc c'est vrai que... Est-ce que la figure de Mélenchon pourrait exister dans un format plus horizontal ? Ça, c'est une autre question, j'en suis pas certaine.
Oui, il y a une contradiction d'ailleurs entre le caudillisme et du personnage et la demande d'une 6e République. Alors, dans les populismes d'extrême droite, la dimension identitaire, la dimension xénophobe est beaucoup plus... C'est même ce qui gêne quand on met dans la même catégorie l'extrême gauche et l'extrême droite. Mais si on définit le populisme par tout un ensemble de critères, après on peut dire qu'il y en a qui sont très peu populistes et d'autres qui le sont complètement. Et donc cette dimension xénophobe, identitaire, elle s'articule chez certains, entre guillemets, intellectuels, par une théorie dite du grand remplacement. Et ce qui est étonnant, c'est que... Bah, vous allez voir ce qui est étonnant dans une minute trente.
Jusqu'à 11h, c'est Mediapolis sur Europe 1 avec vous, Olivier Duhamel. Et ce samedi, on retrouve à vos côtés Yves Mény, politologue et auteur d'Imparfaite démocratie aux presses de Sciences Po, et Rokhaya Diallo, journaliste et auteur de Ne me reste pas à ta place aux éditions Marabout.
Et Justine Jordan Bardella, tête de liste Front Rassemblement National aux élections européennes.
Je pense que c'est un slogan. Par contre, moi je connais la réalité d'un certain nombre de quartiers et je peux constater effectivement le poids considérable que représente l'immigration massive aujourd'hui. Je peux constater que dans un certain nombre de quartiers, notamment dans lesquels j'ai grandi, de plus en plus de nos compatriotes ne se sentent plus chez eux. S'ils sont submergés par le fondamentalisme islamiste, parce qu'ils sont submergés par les dealers, le grand emplacement c'est une théorie, moi je vous parle de pratique. Moi j'ai grandi dans des quartiers aujourd'hui où la quasi-totalité des commerces sont aujourd'hui halal. J'ai grandi dans des quartiers où vous avez des gamines de 5 ans qui sont aujourd'hui obligées de porter le voile. Voilà, ça c'est la réalité aujourd'hui d'un certain nombre de territoires.
Jordan Bardella, tête de liste Rassemblement National aux Européennes, BFM TV, mercredi. Ok, Diallo, c'est vrai tout ce qu'il dit?
Je ne pense pas. Alors ce que je trouve intéressant, c'est qu'il omet quand même de dire que la théorie du grand remplacement qui a été créée par Renaud Camus parle vraiment d'invasion, de volonté de substitution de la part d'une population qui aurait pensé, qui venant d'Afrique, hein, étant arabo, africano, musulmane, aurait vraiment de manière stratégique pensé une installation en Europe qui viserait vraiment à supplanter la population originelle. Alors, il parle aussi de colonisation. Colonisation, c'est quand même une invasion brutale et c'est le remplacement des structures de pouvoir. Quand on regarde le continent européen et tous les gouvernements européens, on ne peut pas dire que les minorités arabo-musulmanes soient particulièrement bien représentées dans les structures de pouvoir. Donc déjà,
Attends, on a quelque chose de faux.
Point,
Yves Mény, d'accord sur ce point que la théorie du grand remplacement n'est pas sérieuse?
C'est une grande foutaise. Excusez-moi, mais comment nous, Français, qui avons colonisé... je dirais, un tiers de la planète, pouvons-nous avancer de pareilles théories aujourd'hui, qui ne sont pas basées sur des faits? Puis je voudrais rappeler quand même à ce monsieur, qui vient de l'extrême droite, qu'en 1960, l'extrême droite, M. Le Pen, voulait l'Algérie française. Si leur vœu avait été exaucé, nous aurions 40 millions d'Algériens français aujourd'hui. Ce serait ça le grand remplacement. Donc ces théories ne tiennent pas debout.
Alors il y avait un autre point, Rokhaya, qui était que dans les banlieues, on est submergé, notamment par le fondamentalisme islamiste, on ne se sent plus chez soi et des gamines de 5 ans sont obligées de porter le voile. Vrai ou faux?
Ce sont des faits qui ne sont pas étayés. Il se trouve que j'ai moi aussi grandi dans des quartiers populaires, à Paris, en banlieue, que je suis aussi très régulièrement, si ce n'est quotidiennement, dans ces quartiers. Ce qui est une réalité, c'est qu'il y a une ghettoisation qui est d'ordre économique. Ce qu'on ne comprend pas, en fait, c'est que les populations ne sont pas forcément volontaires pour rester là où elles sont. Si vous allez à Clichy-sous-Bois, par exemple, et vous demandez aux habitants, idéalement, à quel endroit ils voudraient habiter, ils ne veulent pas habiter là-bas. Ils voudraient habiter dans des endroits qui sont mieux desservis par les transports, et ils ne seraient pas du tout opposés au fait d'être mélangés au reste de la population. Donc la réalité, en fait, pour moi, de la question, c'est la manière dont les logements sociaux ont été constitués quand il y a eu une immigration importante dans les années 70-70, et dont, peut-être, par erreur, parfois, les organismes de logement sociaux ont regroupé des populations en estimant qu'elles avaient sans doute des affinités culturelles et effectivement ont constitué des ghettos. Mais on sait, c'est documenté aujourd'hui, que parfois des personnes de la fonction publique qui travaillent pour des organismes sociaux se disaient que c'était bien d'avoir telle ou telle personne, du fait de ses origines, de les mettre, de les placer en tout cas dans des logements où elles pourraient être ensemble, si bien qu'on a dans certains endroits effectivement des villages qui étaient, enfin des villages africains, enfin voilà, d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, qui étaient reconstitués dans des cités françaises. Mais encore une fois, l'aspiration des gens, c'est vraiment de pouvoir vivre comme tout le monde. Donc d'imaginer encore qu'il y a quelque chose de volontaire. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a un très très fort turnover des populations dans les quartiers populaires. Dès lors qu'une famille réussit sur le plan économique, elle part. Donc ce sont des populations qui sont très très jeunes, mais les gens ne restent pas longtemps. Donc s'il y avait véritablement une volonté de domination territoriale, les gens resteraient et s'agrégeraient les uns aux autres. Mais en réalité, moi je suis caractéristique de cela. J'ai grandi dans un quartier populaire, effectivement, dès que j'ai terminé mes études et que j'ai pris mon premier appartement, je suis partie ailleurs parce que j'en ai eu les moyens. Et ça, c'est quelque chose dont on parle très très peu. Et ces quartiers-là sont constitués par les vagues successives d'immigration.
C'est l'autre sens.
Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens d'origine.
Ne reste pas à ta place.
Oui, c'est vrai. Voilà, effectivement, je considère que je suis un accident sociologique. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a par exemple beaucoup de gens d'origine tamoule, d'origine rome, etc., qui correspond aux vagues d'immigration les plus récentes. Donc encore une fois, on n'est pas dans quelque chose du remplacement, mais vraiment dans la France et sa migration. Voilà.
Enfin, dernière question, les dealers, là, il y a quand même des quartiers qui sont tenus par des dealers.
Mais alors, le deal, c'est pas culturel. Hein. Il parle de remplacement, le deal, c'est associé à aucune religion. Hein. Le deal, c'est quelque chose... Enfin, la délinquance, la petite délinquance, c'est l'apanage effectivement des classes populaires, mais il y a toujours eu de la délinquance dans les classes les plus défavorisées.
Et oui, mais il y a quand même, avec le trafic de drogue, une extension à toute une partie... d'une jeunesse dans certaines zones géographiques qui ne vit que comme ça et pour ça. Et
parce que
ça.
Oui, effectivement, il y a une économie parallèle, il y a des taux de chômage très importants. Enfin, faut-il le rappeler, il y a des taux de chômage parfois où les jeunes, enfin, il y a des endroits où les jeunes sont à 40% des chômeurs. Il y a aussi.
Mais c'est le lot de toutes les immigrations fraîches. On a eu le banditisme corse. On a eu le banditisme italien. Moi, je conseille à M. Bardella, est un franco-italien, je lui conseille de relire le beau bouquin de Canava, l'Hérital, qui montre toutes les difficultés des Italiens dans la banlieue de l'époque. C'est fantastique.
Canava, l'Hérital, oui, absolument. Oui. Et alors, pendant ce temps-là, parce que l'émission va s'achever, et je ne peux pas ne pas vous parler de ce que Paul Lassen nous a repéré dans le genre, la politique, il y en a marre, il faut faire autre chose. Eh bien, il a trouvé ce qui m'avait échappé, qu'un député LREM, Joachim Son-Forget, quittait la politique et sort un disque. C'est celui qui s'était fait exclure du groupe de La République En Marche à l'Assemblée. Il s'affiche sur les réseaux sociaux aux côtés du rappeur Doc Gineco et ils ont le projet commun. Ils sortent mardi un titre qui s'appelle En couleur, inspiré du mouvement des Gilets jaunes. Et vous connaissez ça? Vous étiez au courant?
Alors, je n'étais pas au courant, je l'ai découvert, du coup, j'ai écouté le morceau.
Ouais.
J'ai été étonnée parce qu'il ne chante pas si mal, en fait.
Ah, bon?
Ouais, et j'ai découvert effectivement qu'il était claveciniste émérite, ce député. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que les députés puissent avoir une vie artistique.
On
va
vous en mettre un petit bout, hein. Mais ce n'est pas notre chanson de la fin, il ne faut pas confondre.
C'est pas la chanson de l'année, c'est de la pop un peu ado, quoi.
Non. Nous, on va vous passer, maintenant que l'émission touche à sa fin, on va vous passer à nouveau une chanson en pensant à nos amis algériens et à leur combat démocratique. Et on rappelle à quel point c'est difficile, puisque c'est une chanson qui a été écrite lors du printemps arabe de 2012. Et on sait comment ça s'est terminé dans un certain nombre de pays, à commencer par l'Égypte et le régime de plus en plus autoritaire. C'est Trio qui a écrit et vous chante cette chanson « Printemps arabe 2012 ».
Ans de dictature sous le silence de nos drapeaux, 40 ans à la dure sous les yeux des Occidentaux qui partent en vacances en Tunisie prendre des photos d'Alexandrie et qui d'un coup semblent surpris au réveil du peuple endormi. Merci Égyptien, merci Tunisien. Merci pour ce doux réveil qui au fond de nous nous rappelle que la démocratie, c'est la rue qu'il a choisie, à Tripoli ou Alger, le peuple va décider.
40 ans de vie austère sous l'œil rigide des militaires, 40 ans dans la misère sous corruption de fonctionnaires qui décident si tu te loges, si tu travailles, si tu déroges, si tes enfants auront le droit d'avoir du pain pour leur
réveil, qui au fond de nous nous rappelle que la démocratie, c'est la rue qui l'a choisie, à Tripoli ou à Alger, le peuple va décider. Ses œillères, que les intérêts africains pour la France valent bien plus cher que le bonheur des êtres humains qui habitent sur ces terres. À présent reconstruire une liberté, un pays. À présent quel devenir et quelle histoire en Tunisie pour que les femmes puissent sourire.
Non, non, c'est pas Radio Orient, c'est Europe 1 avec la chanson finale de Mediapolis. En hommage et en pensée pour les jeunes, notamment en Algérie, qui manifestent pour la démocratie. Moi, je remercie très particulièrement Rokhaya Diallo, auteur de « Reste pas à ta place » et qui a bien raison d'avoir changé de place. Yves Meny, qui s'est déplacé partout à travers le monde et qui a écrit « Imparfaite démocratie ». Merci à Jean-Luc Arblat qui a réalisé l'émission, à Paul Lassène qui l'a préparé avec moi. Et à Justine, bonjour, bon week-end à vous.
Bon week-end.
Et en podcast hein, sur europe1.fr.
Toujours, vous le savez bien. En tout cas, c'était Mediapolis. On vous retrouve bien sûr samedi prochain à 10h, comme d'habitude.